Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir David Aziza pour son essai « Mythe juif, le retour du sacré » qui vient de paraître aux éditions Kalman Levy. Bonsoir David.
Bonsoir.
C'est un plaisir de vous recevoir pour une première dans cette émission. On a eu du mal à convenir d'un rendez-vous. Vous habitez aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Et puis nous sommes occupés tous les deux. Pour débuter, quelques mots de présentation pour les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom, afin de vous cerner, même si on vous connaît. Vous êtes chercheur et essayiste, normalien, vous êtes docteur de l'Université Columbia, vous enseignez l'histoire de l'Europe, la littérature française et le cinéma, vous collaborez à plusieurs revues et magazines, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Talisman sur ton cœur » au CERF en 2017, une exégèse du Cantique des Cantiques et le procès de la chair, Grasset 2022, un essai sur le puritanisme contemporain. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important à souligner ?
Non, pas à ma connaissance.
On a dit l'essentiel. Alors, votre actualité, c'est la parution, il y a quelque temps, très peu de temps, de l'ouvrage « Mythe juif, le retour du sacré » chez Kalman Levy. Alors, quelques mots, une nouvelle fois, de présentation de l'ouvrage. Le judaïsme est souvent perçu comme une religion dénuée de dimensions mythiques, alors qu'il regorge de récits fondateurs empreints sacrés. Dans votre essai, vous explorez la puissance, la beauté et les dangers du mythe à travers la Bible, la Kabbale et la tradition rabbinique. Vous déconstruisez l'idée selon laquelle le judaïsme aurait entièrement rejeté le paganisme, montrant au contraire qu'il l'a transformé en conservant un rapport au sacré sans idolâtrie. Cette approche révèle la pluralité divine, la part féminine de Dieu, le symbolisme érotique, le rapport à la mort, ainsi que l'attachement paradoxal à la terre d'Israël et à l'exil. En revisitant ces mythes, vous éclairez des enjeux contemporains comme la modernité, le fanatisme, le sionisme et l'antisémitisme. Et surtout, votre livre propose un voyage à travers les textes et les siècles en convoquant prophètes, kabbalistes, écrivains, et les juifs ordinaires dont la mémoire reste imprégnée de ces récits. David, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cet essai ? Pourquoi avoir décidé de l'écrire ?
Alors, c'est une genèse un peu complexe parce que ça s'est fait en plusieurs temps. Ce livre, c'est l'aboutissement de presque 10 ans de réflexion, en fait. Disons que d'un côté, il y avait le constat qu'on disait encore trop souvent que notamment dans certains milieux académiques, que le judaïsme était une religion dépourvue de mythes, une religion de la raison. Alors même que ce que je dis, moi, dans ce livre n'est pas si nouveau, même dans le monde de la recherche, en vérité, il ne l'est pas du tout. Ça fait en fait plus de 100 ans que Martin Buber, auquel je n'oserais certainement pas me comparer, en 1914 donc, fait sa conférence sur le mythe, le judaïsme et le mythe, en s'opposant déjà à l'époque à ce qui était une vulgate, mais paradoxalement une nouvelle vulgate, parce que pendant des siècles, on accusait plutôt les juifs du contraire, en fait, d'être du côté de l'archaïsme, d'être du côté... Même si on pense à cette phrase extraordinaire de Blaise Pascal, dans laquelle les juifs tiennent le milieu entre les païens et les chrétiens dans les pensées. C'était plutôt ça, la doxa. Vers la fin du 19e siècle, et c'est lié notamment à l'émancipation des juifs et au fait que les juifs sont à ce moment-là entrés dans la modernité, les clichés mettent pas beaucoup de temps forcément à s'imposer dans l'opinion publique, c'est effectivement celui d'un certain rationalisme qui serait inhérent au judaïsme et aux juifs. Et bien pourtant, malgré Buber, malgré Scholem, malgré plus tard des gens comme Hidel, Moshe Hidel le grand, spécialiste, le grand historien de la Kabbale, malgré Mopsik, j'en passe, des gens qui sont aussi moins connus en France. J'ai beaucoup travaillé avec la pensée d'un chercheur israélien qui s'appelle Yehuda Libes, qui est un grand spécialiste de la Kabbale. Bon, etc., etc., j'en passe. On continue à dire ça, on continue à entendre ça. Et à un moment, ça m'a énervé. Et puis, ça m'a énervé parce qu'on se prive de l'extraordinaire beauté, de l'extraordinaire richesse, de l'extraordinaire noblesse du mythe juif. On se prive de... je pense souvent, et je cite souvent cette phrase d'Aaron Appelfeld, « Les juifs ont un trésor, s'ils le savaient, ils pleureraient ». C'est une phrase qu'il attribue, je crois, à son oncle dans « Histoire d'une vie ». Mais c'est vrai, et c'est particulièrement vrai, du mythe. Et de la beauté des rites, d'ailleurs. Je connais tellement de gens, tellement de juifs qui sont passionnés, comme je le suis, au demeurant, par les mythes et les rites de différentes cultures, y compris antiques, et qui ignorent complètement ce qui se passe dans le judaïsme, ou alors qui le voient comme une espèce de truc un peu nostalgique, joli, on fait ci et ça parce que ça fait plaisir à Pépé Mémé, ou parce que ça permet de s'en souvenir, mais sans se rendre compte qu'il y a la même beauté, la même vitalité là-dedans que dans la frise des Panathénées du British Museum d'Athènes. Enfin, frise des Panathénées venant d'Athènes. Hello, British Museum. Et il y a autre chose aussi, c'est que le mythe n'est pas que beauté, n'est pas que noblesse, n'est pas que richesse. C'est-à-dire que le mythe, c'est la vitalité de la religion. Or, dans la vitalité, il y a aussi une part de violence. D'ailleurs, mon essai précédent, Le procès de la chair, s'ouvrait par une réflexion sur la violence, un chapitre sur la violence. Et le fait que tout n'est pas mauvais, paradoxalement, dans la violence. Mais la violence devient mauvaise quand, et là il faut distinguer un peu les termes, quand elle devient brutalité, quand elle devient cruauté, quand elle devient barbarie, etc. Et quand, en fait, quand on n'a aucun moyen de la canaliser ou de la sublimer.
Alors on va rentrer dans le détail. Oui.
Et juste pour terminer là-dessus, si le judaïsme a des mythes, le judaïsme a aussi sa part de violence. À même cette vitalité, d'ailleurs étymologiquement violence et vitalité c'est la même chose, hein. À même cette vitalité, il y a aussi une part de violence, il y a aussi une part, parfois, de choses qui nous sont très désagréables, qu'on n'a pas forcément envie d'évoquer, mais il le faut, parce qu'à un moment, sinon ça nous saute au visage, et en ce moment, c'est vraiment d'actualité.
Alors, plusieurs éléments par rapport à ce que vous venez de dire, et qui me fait penser à une question sur votre méthode. Votre ouvrage est très érudit. Emmanuel Lévinas disait que pour philosopher, il fallait citer les philosophes qui l'avaient précédé. Et on a l'impression que vous, pour réfléchir, vous avez besoin de citer vos lectures, ceux qui vous ont inspiré, qui vous ont guidé. Donc c'était la première question par rapport à ce que vous venez de dire. Et puis la seconde chose, c'est que on a cette impression finalement que vous faites partie de cette école française de pensée juive qui est née à la Libération. Ceux qui nient l'importance du mythe dans le judaïsme, c'est plutôt ce judaïsme éclairé berlinois, la Haskala, la Aufklärung, les Lumières. Quand ils passent en France, il y a autre chose avec tous ces grands penseurs dont les noms forcent l'admiration. J'en ai cité un, Lévinas, mais ça peut être aussi André Néer, un petit peu Jean Kelevitch, Léon Ashkenazi di Manitou, Eliane Amadoli Valenci, qui pour eux, eh bien, porter un regard imprégné de spiritualité, de reconnaissance des mythes, de pratique des rites, n'est plus un crime de lèse-majesté quand on est universitaire. Est-ce que c'est un peu ça aussi, votre école ?
Alors,
par rapport au premier élément de citer vos maîtres ou vos lectures.
Première question, alors. Oui, c'est en partie une question d'humilité, c'est-à-dire que beaucoup de choses que je dis dans ce livre, je ne veux pas décevoir mes lecteurs potentiels, mais ne sont pas forcément très originales. Et ça m'a étonné d'ailleurs de voir des gens parfois surpris, parce que je disais, ah bon, il y a du paganisme dans la Bible, bon, je ne suis vraiment pas le premier à le dire. Après, j'en fais quelque chose qui, je l'espère, est assez nouveau, notamment d'ailleurs le fait d'en parler en français. Parce qu'je cite aussi beaucoup de chercheurs ou d'auteurs, parfois d'auteurs de la tradition. Alors là, évidemment, ils n'ont pas écrit en français. Mais les chercheurs que je cite non plus. Et ils sont souvent peu connus en français. Parfois même, c'est étonnant, parfois même quand ils ont écrit en français ou qu'ils sont traduits en français. Et puis c'est un dialogue, oui, la pensée. Je ne sais pas si c'est un livre de philosophie à proprement parler. Je ne crois pas d'ailleurs que ça le soit. Mais,
alors qu'est-ce que c'est? Comment vous le définiriez?
Moi, je viens de la littérature. J'ai fait de la philosophie. J'ai étudié la philosophie, j'ai un master de philosophie. Mais je me suis tourné ensuite vers la littérature comparée.
Mais c'est un livre qui invite à penser.
Mais on peut penser, il n'y a pas que la philosophie qui pense. Mm-hmm. Comment dire, j'utilise des philosophes. Je m'appuie sur des philosophes. Parfois, en plus, les frontières ne sont pas aussi claires. Oui. Est-ce que Maïmonide, c'est un philosophe? Oui. Est-ce que c'est... lui-même ne se considérait pas comme philosophe. En fait, il parle des philosophes comme d'un camp qui est celui... quand même un peu de l'adversaire, même s'il est en dialogue avec.
Si on dit que c'est un livre d'histoire des idées, est-ce que ça vous...
Ce serait peut-être plus proche de ça, mais moi j'aime bien le fait de parler de perspectives comparatistes, de parler de perspectives littéraires. D'ailleurs, c'est un livre où j'ai mis beaucoup de moi-même, beaucoup de ma personne, beaucoup de mes émotions. L'introduction du livre part du 7 octobre et en parle, ainsi que la conclusion d'ailleurs. Et ça traverse tout le livre. C'est aussi un livre que j'ai écrit quelque part pour des gens que j'aime. Donc, je ne dis pas qu'un philosophe ne puisse pas le faire, bien sûr, mais disons que chez moi, il y a toute cette dimension-là. Après, je réponds donc à votre deuxième question. Alors, non, juste sur le... que ce soit ou non de la philosophie, on est toujours en dialogue avec ses prédécesseurs, et il le faut. Et c'est pas seulement une question d'humilité, c'est aussi pour justement mieux se comprendre soi-même, mieux savoir qui l'on est, où l'on va. Et donc voilà pourquoi. Alors, vous dites érudit, moi je ne me considère pas comme érudit, et je ne considère pas ce livre comme de l'érudition parce que pour plein de raisons qui seraient trop longues à expliquer. Disons que je dirais que c'est un livre qui utilise l'érudition. Enfin, bon, peut-être que je pinaille un peu. Alors, sur l'école française de pensée juive, je ne sais pas trop. En fait, ça, c'est une question intéressante, en fait. Une question très importante que vous me posez là. Je vais vous répondre un peu par un pas de côté, en fait. C'est un livre très français, à mains égards. D'ailleurs, y compris cet aspect justement littéraire et quand même philosophique, donc ce fait de mélanger un peu les deux.
La pluridisciplinarité.
Voilà, ouais. Et puis cette porosité entre la littérature, l'histoire et la philosophie, certains pourraient dire que c'est très français.
Et la convocation de nos sources, des sources de la tradition juive.
Voilà, donc ça ce serait l'école juive de pensée, oui. Après, c'est aussi le livre de quelqu'un qui vit depuis 10 ans aux États-Unis, qui est au contact de la recherche dans le domaine des études juives, en anglais, en hébreu. Il y a plus de proximité, pour des raisons que je ne comprends pas très bien d'ailleurs, entre le monde académique juif, américain et israélien, qu'entre ces deux mondes et ce qui se fait ici. Pourquoi ? Je ne sais pas. A priori, c'est pas un problème de langue, c'est certainement pas un problème de proximité géographique.
De formation, peut-être.
Peut-être, oui. C'est peut-être ça. Oui.
Avec une tradition peut-être davantage culturelle, peut-être pompeuse en France, qui l'est moins chez les analytiques israéliens ou anglo-saxons.
Oui, alors là d'ailleurs, là, je parle pas forcément d'analytique, parce qu'encore une fois, je parle pas forcément de philosophe, je parle d'historien, je parle de gens qui travaillent sur les sources juives, sur les textes. Il y a peut-être un point commun entre les deux, entre les études juives aux États-Unis et l'université israélienne. C'est peut-être l'Allemagne, c'est peut-être même si l'université allemande et l'université anglo-saxonne, c'est pas du tout la même chose historiquement, mais à un moment, enfin au niveau des études juives, c'est peut-être là que ça joue. Je ne sais pas, en fait, je réfléchis un peu en parlant là-dessus. Je me rends compte que c'est une question qui...
Mais avec, on en revient, une exception française.
Alors oui.
Et que peut-être votre tradition, même si vous avez...
Et vous voyez, j'ai du mal à vous répondre, oui. parce que oui, vous avez raison, quelque part. Moi, j'ai fait un master sur Lévinas. Quand je faisais de la philo, j'ai fait mon master sur l'eschatologie chez Lévinas. Donc, je vais pas renier ça. Mais vous avez vu que mon livre n'est pas lévinassien. Et on me l'a d'ailleurs un peu reproché parfois, parce que Lévinas est un peu l'intouchable de la pensée juive française. Je vais le dire comme ça, moi comme philosophe juif, pour moi, Lévinas est très peu pertinent, à part sur deux questions. La question du messianisme, c'est-à-dire cette méfiance qu'il a vis-à-vis en fait, du messianisme, vis-à-vis de la téléologie, qui l'oppose à l'eschatologie. C'est quoi la téléologie ? C'est l'idée que les choses ont une fin, un but au-delà d'elles-mêmes. Par exemple, le présent, son but, ce serait quoi ? Le futur. Donc, on peut mourir, on peut tuer, on peut... Bon. Et ça, c'est une dimension très dangereuse dans le messianisme qui l'oppose à l'eschatologie qui, pour lui, est au contraire rédemptrice.
Est-ce que je peux dire votre second point commun ? Vous me dites si vous êtes d'accord.
Dites-moi.
C'est le fait d'être païen, mais un paganisme sans idole, le rejet de l'idolâtrie.
Alors, non, parce que là, vous parlez de moi,
oui.
Et vous m'avez bien lu, mais c'est pas du tout ce que dit Lévinas. À ma connaissance, Lévinas, en tout cas les textes que je critique dans ce livre, est extrêmement anti-païen. Il le dit textuellement et d'une manière que j'ai moi-même beaucoup, beaucoup critiqué. Non, je dirais que le deuxième point commun, c'est un texte que j'aime beaucoup, Lévinas, qui est dans les quatre lectures talmudiques, qui s'appelle « Terre promise, terre permise mm-hmm. », qui est un texte qui critique une certaine idolâtrie, pour le dire simplement, de la terre. Mais là où j'ai un problème avec ces deux points communs...
Donc c'est le rejet de l'idolâtrie, vous êtes d'accord avec ça?
Le rejet de l'idolâtrie, en l'occurrence, de la terre. Mais on pourrait dire d'ailleurs que sa critique de la théologie est c'est une critique de l'idolâtrie du futur, de l'idolâtrie du Messie.
Oui.
Et ça, c'est très bien. Mais mon problème, c'est quoi? C'est que dans les deux cas, Lévinas est un apologète. C'est-à-dire que dans les deux cas, il nous dit « le judaïsme parle la langue de Lévinas ». Le judaïsme, d'ailleurs, ne se trompe jamais. Le judaïsme n'a jamais été follement messianiste. C'est faux. C'est faux et malheureusement parfois, encore récemment, enfin, aujourd'hui, on voit bien que c'est faux. D'ailleurs, il y a un messianisme juif dangereux et dont on va bientôt, nous, juifs, hein, je parle même pas des autres, des Palestiniens, des chrétiens vivant en Israël, ça. Nous, les juifs, on va en souffrir. Et quant à l'idolâtrie de la terre, bon, je vais pas vous faire un dessin, ça...
Voilà, alors, ça moi, j'ai aussi ma théorie sur la question, c'est qu'il a reçu beaucoup d'éléments de sa pensée ultérieure à la Shoah de son maître Shushani, et Shushani refusait tout ce qui était idolâtrie. Pas d'attachement, ni à la terre, même aux effets personnels, aux gens, etc. Et sans doute que c'est ce qui a peut-être changé
peut-être
un petit
amené,
peu.
Ça l'a amené peut-être à croire, sincèrement, que le judaïsme, c'était ça. Mais moi, et là-dessus, je m'éloigne fortement des philosophes. Qu'est-ce que je n'aime pas chez les philosophes, foncièrement? Tous, quels qu'ils soient, compris Platon. Je préfère Hérodote à Platon. Voilà, si je peux.
C'est catégorique, non, comme affirmation?
Oui, mais bon, bah, j'exagère un peu.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez tous les philosophes?
Pourquoi j'ai cité Hérodote, là, justement? Parce que j'aime les historiens. Parce que j'aime les gens... Hérodote, c'est le père de l'histoire. Parce que j'aime les gens qui s'intéressent aux gens de chair et d'os. Dans leur réalité corporelle, concrète, sociale, politique, etc. Ça, j'aime. Lévinas, pardon, quand il parle du judaïsme, il ne parle pas des juifs. C'est le sentiment que j'ai profondément quand je lis Lévinas. Il ne parle pas des juifs, il parle peut-être un peu lui-même, et encore, d'ailleurs, il est assez peu présent en tant qu'homme dans ses textes. Peut-être que c'est
voilà, si vous le voulez bien, on fera une nouvelle émission par rapport à ça, et on évoquera notamment sa théorie sur le visage d'autrui, son rapport à l'autre, et c'est quelque chose de très intéressant.
Je suis très content de faire autant d'émissions que vous le voulez.
On a parlé d'une thématique qui traverse évidemment votre livre, le fait d'être païen, mais un paganisme sans idole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette formule qui peut quand même paraître intrigante?
Alors, en fait, déjà, il faut commencer par le fait que j'emploie ce mot de païen un peu par commodité, parce que beaucoup de gens l'emploient, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Païen, c'est quoi? Étymologiquement, paganus, c'est un paysan. Et c'est l'expression péjorative employée par les pères de l'Église pour qualifier, en fait, à l'époque, leur propre famille, là d'où ils venaient, c'est-à-dire les Grecs, les Romains, qui n'avaient pas eu accès aux lumières du christianisme. Ce qu'on entend à partir de là par paganisme, et c'est une espèce de rapport à la religion qui passe par le corps, par l'extériorité, par les rites, par un rapport à la nature, à la chair, au sacré, à une forme d'immanence divine, à une forme d'irrationnel, au côté démonique aussi, les esprits, etc., etc. Et vous avez des gens, y compris dans le monde orthodoxe, hein, c'est même un peu la doxa aujourd'hui dans une certaine orthodoxie, qui vous disent « le judaïsme n'a rien de tout ça ». Mais c'est pas vrai. En fait, le premier acte par lequel on devient pas juif, mais on entre dans l'Alliance quand on est un garçon, c'est la circoncision. Ça a tout de ce que je viens de dire là. C'est un geste, c'est un rite, ça touche au corps, à la sexualité, à la nature, etc. etc., etc. On pourrait comme ça faire... Je parle dès le début de mon livre de la prière pour la pluie. Moi, je me souviens qu'ayant été biberonné au lévinasisme, et je ne viens pas d'une famille religieuse, première fois que j'ai fait Shmini Atzeret, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on ne m'avait pas dit que les Juifs priaient pour la pluie, comme des Indiens, comme des Sioux. J'étais un peu choqué, j'avais l'impression qu'on m'avait menti presque. Et puis je me suis dit, bah, en fait, c'est très chouette. C'est beaucoup mieux même. C'est beaucoup mieux que ce truc un peu... peu coincé, enfin, un peu, voilà, où on serait les protestants du Moyen-Orient, sur leur camp à soi, avec une divinité complètement abstraite, qui en fait n'existe pas littéralement, qui est un truc oui, abstrait, conceptuel. C'est beaucoup mieux, c'est magnifique de prier pour la pluie. Et là, on va me dire, oui, mais en fait, c'est la soumission au commandement. C'est pas vraiment, mais c'est pas vrai, il faut les lire les textes, il faut voir les gestes. Agiter son loulav à Soukhot, c'est païen, je regrette. C'est un geste, un peu frénétique d'ailleurs, qui a une dimension de rite de fertilité. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé ça, c'est même pas je ne sais quel anthropologue. Le Sefer HaBa'ir, le premier livre de Kabbale proprement dit, compare le loulav et l'étrog aux organes sexuels.
Traduit en français par Joseph Gottfarstein, qu'on peut lire aujourd'hui, oui.
Je ne savais pas que ça avait été traduit. Ah oui, c'est chez Verdier.
Oui.
Absolument. En fait, je le savais. et c'est le livre sur lequel Gershom Scholem, qui est oui. vraiment très, très présent dans mon livre et dans ma réflexion, a fait sa thèse. Voilà. Et à une époque où, en fait, les gens qui connaissaient la Kabbale pensaient que la Kabbale comment se résumait en gros au Zohar. En fait, la Kabbale, c'est une tradition extrêmement diverses. Et le Ba'ir, livre français, puisque c'est né il a été diffusé en ce qu'on appelle la Provence, qui est en fait le Languedoc techniquement, dans la région de Lunel. C'est là que c'est le 12e siècle. Et donc en fait, quand moi, tout ce que je dis là et qui vient en partie de la recherche académique, scientifique, de la critique biblique, des études, des historiens, etc., en fait, c'est des choses que souvent on trouve quand on sait lire et même pas toujours entre les lignes, dans la tradition de nos commentateurs. Je vais vous donner juste un... Désolé, je parle un peu trop, mais je vous donne un exemple. Dans la Bible, on dit que Dieu est Elohé à Elohim, le Dieu des dieux. Il y a des gens qui cherchent à minimiser cette formulation. Oui, ça veut dire que c'est plus compliqué que ça, que les autres dieux n'existent pas devant lui, etc., etc. Abraham ibn Ezra, qui n'est pas un kabbaliste, qui est plutôt du côté, on va dire historiquement, d'une certaine forme de rationalisme juif. Mais il dit, oui, ça veut dire qu'il est le dieu des dieux. Alors, c'est quoi en l'occurrence? Ce serait plutôt les anges. Mais les anges sont des dieux. Ce sont des dieux, littéralement. Qu'est-ce que c'est qu'un dieu après tout? C'est une puissance. Et on n'a jamais dit que ça voulait dire que tous les dieux étaient coéternels et égaux. Pas du tout. D'ailleurs, dans plein de mythologies en dehors du judaïsme, il y a des dieux qui sont créés par un autre dieu ou qui naissent d'un autre dieu, c'est pas un problème ça. Et je me demande toujours, mais en fait pourquoi on n'arrive pas à lire? C'est comme, qu'est-ce que lisent les gens quand ils lisent? Pourquoi? Et je pourrais comme donner plein d'exemples.
Est-ce que sa lecture n'est pas inspirée de sa préhistoire ou du courant dans lequel on le vit? Je pense à ces deux courants.
Sa lecture, c'est-à-dire
la lecture des textes et en fait oui. de refuser de voir ce que oui. Le sens littéral peut nous dire. Oui. Alors peut-être que c'est totalement anachronique ce que je vais dire, mais quand on est plus dans le courant du chassidisme que du courant du mythe Nagdim, les mythes parlent davantage, non?
C'est pas du tout anachronique. C'est pas du tout anachronique. D'ailleurs, on peut dire qu'il y a plutôt dans ce livre une sensibilité plutôt chassidique ou séfarade, c'est-à-dire informée par la Kabbale, etc. Mm-hmm. Maintenant, j'apporte quand même une nuance et je dois insister là-dessus. Les mythes Nagdim, historiquement, ils sont tout autant influencés par la Kabbale. Le Gaon de Vilna a commenté le Zohar. Et là, en fait...
Mais avec plus de méfiance, quand même.
Je dirais plus de méfiance vis-à-vis des aspects magiques de la Kabbale. Oui. Très bien analysé, clairement analysé par quelqu'un comme Moshe Hidel. Ça, c'est vrai. Mais pas du tout vis-à-vis, si on peut faire cette distinction, des aspects théurgiques de la Kabbale. Qu'est-ce que c'est la théurgie? C'est un mot un peu compliqué, qui vient de l'Antiquité des néo-platoniciens. Mais les chercheurs sur la Kabbale ont vu que la Kabbale, en fait, était profondément théurgique. La théurgie, c'est l'idée que l'homme influence le divin. Et donc, en fait, c'est une forme de magie. Et c'est une magie qui opère selon certaines règles, etc. Quand vous lisez le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volozhin, qui est le principal disciple du Gaon de Vilna et qui a fondé le judaïsme lituanien, y compris en termes de mode de vie, entièrement consacré à l'étude, etc., etc. Il y a toute la théurgie, il y a toutes les idées qui sont en fait, il ne pourrait pas s'en débarrasser puisque c'est le pshat, c'est le sens littéral du Zohar. L'homme influence Dieu, l'homme fait Dieu, pour paraphraser Charles Mopsik. Vous avez ça chez les mythes Nagdim à l'époque. Et puis, ça a été refoulé. Et moi, Alors, je ne suis pas un chercheur de ce domaine-là. J'ai un jour posé la question à un très grand chercheur, et pas seulement chercheur, un descendant direct de Rabbi Chaim de Volozhin, qui s'appelle aussi Chaim Soloveitchik. C'est le fils du Rav Soloveitchik, oui, qui était l'une des grandes figures du judaïsme lituanien slash modern orthodox aux États-Unis. Mais enfin, il n'était pas très moderne en vérité. Il admettait juste comme en fait, traditionnellement, ça avait été le cas, qu'on fasse des études, etc., etc. Son fils, Chaim Soloveitchik, Chaim Soloveitchik est un historien, spécialiste d'ailleurs du vin cachère. C'est un historien très, c'est un peu niche hein, comme sujet. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'une conférence à New York. Et je lui ai demandé, en fait, mais pourquoi ce refoulement dans le judaïsme lituanien, orthodoxe devenu, d'un côté ultra-orthodoxe, haredi, tout ça, chapeau noir, de l'autre, ce qu'il incarne lui, par exemple, entre autres, aux États-Unis, Yeshiva University. Pourquoi ce refoulement de la théologie? Et derrière la théologie, de la Kabbale, qui en fait était fondatrice pour eux, comme elle l'a été pour les Chassidim, quoique différemment. C'est pas qu'il a pas su répondre, il n'a pas voulu me répondre. Il m'a dit, vous racontez n'importe quoi, on s'est jamais intéressé à la théologie. Et je lui ai répondu, ah bon, et votre père? Son père a écrit sur les... Et j'ai pas ajouté, et votre ancêtre, Rabbi Chaim, Volozhiner, oui. J'aurais pu... Mais c'est extraordinaire comme réponse. Ça veut dire que en fait, il y a c'est de l'ordre du refoulement freudien. Il y a un truc qui s'est passé chez les Mitnagdim et leurs descendants spirituels aujourd'hui, donc le courant yeshivish comme on dit, ou lidvish, ou voilà, black hatish, de refoulement de tout ça. Chez les Chassidim moins. C'est d'ailleurs revenu en force dans la branche Chabad. Et moi, dans mon livre, je commente même à un moment le Vayoel Moshe de Rav Teitelbaum, qui est le maître-livre des Chassidim de Satmar. Il y a de la théologie, il y a de la Kabbale, il y a de la Kabbale lourianique, mais c'est pas très connu des masses chassidiques, il faut pas exagérer. Et chez les Lubavitch davantage, ils l'enseignent dans leur yeshivot. Et par ailleurs, c'est revenu aussi dans des courants sionistes religieux, influencés plus ou moins par le chassidisme. Mais en gros, en fait, ce refoulement, il existe aussi chez les chassidim.
Est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme avec les faux messies qui débutent avec Sabbatai Zvi, après Adolphe
Frankfort,
qui ont fait des dégâts en monde ashkénaze aussi?
Ouais, je pense. C'était un peu la réponse que j'attendais de la part de Chaim Soloveitchik quand je lui ai posé la question. Cela étant dit, le chassidisme est exactement contemporain du franquisme. On a tendance parfois à oublier qu'en fait c'est un mouvement non pas du 19e ou même de la fin du 18e siècle, mais au départ c'est vraiment un mouvement en plein dans le 18e siècle, exactement contemporain du franquisme. Le Baal Shem Tov a vécu la conversion en masse des franquistes.
Certains disent d'où le traumatisme.
Certains disent qu'il en est mort de chagrin. Enfin, oui. D'où le traumatisme, mais en fait les premières générations de chassidim, y compris juste après le Baal Shem Tov, jusqu'au Baal HaTanya qui est le fondateur du chassidisme Chabad, Shneur Zalman de Liadi, n'ont aucun problème avec ces aspects-là. Y compris jusque assez au milieu du 19e siècle, Menachem Mendel de Kotzk.
Oui, il faudrait creuser. Ouais.
Mais en revanche, ça peut être en quelque sorte une bombe à retardement, un truc qui aurait opéré après. Ça peut être plein de choses. En fait, il y a aussi le fait qu'au même moment, les Juifs entraient dans une modernité déthéologisée, démythologisée. Quelque part, vous parliez tout à l'heure du mouvement berlinois. Moi, il se trouve que j'aime beaucoup Moses Mendelssohn, aussi paradoxal que ça puisse paraître pour quelqu'un qui critique des gens qui peuvent qu'on peut lui rapprocher de lui. Mais je trouve que Mendelssohn a vraiment compris quelque chose sur le pluralisme juif, qui est lié fondamentalement au fait que en fait, le judaïsme n'est pas le monothéisme qu'on prétend. On accepte que les autres peuples aient d'autres divinités. Quelqu'un qui l'a magnifiquement dit, c'est Nachman Krochmal, dans le Moreh Nevuché HaZman, où il dit « chaque peuple a son tsar », donc son prince, sa puissance angélique. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a le côté qu'ancien, on ne se pose pas trop la question de l'au-delà, des puissances célestes, etc. On devient pudique par rapport à ça. Et peut-être que quelque part, ça a un petit peu pénétré le judaïsme oriental, puis séfarade, puis je ne sais pas. Et puis par ailleurs, moi je dis que le mythe peut être dangereux. Je suis conscient de ça. Donc peut-être qu'inconsciemment ou consciemment, il y a aussi une forme de méfiance vis-à-vis des dangers du mythe et de tout ça, et qui a fait que voilà, on a voulu s'en éloigner.
Vous abordez une thématique que j'aime beaucoup dans la manière dont elle est traitée, c'est la part féminine de Dieu et le symbolisme érotique dans le judaïsme. Comment ces aspects s'intègrent-ils dans la tradition et pourquoi sont-ils si peu mis en avant?
Alors, comment ils s'intègrent dans la tradition? Je vais essayer d'être le plus rapide possible parce qu'on a peu de temps.
Oui.
Ils sont au cœur de la tradition. Je veux dire, au risque d'exagérer un peu, dans mon livre je suis un peu plus nuancé que ça, mais je vais paraphraser Moshe Hidel, le judaïsme sous l'influence de la Kabbale est devenu un culte du féminin. Ça ne veut pas dire que la Kabbale soit complètement dépourvue de misogynie, et ça ne veut certainement pas dire qu'il n'y ait pas de misogynie ou de machisme chez les juifs. Mais il y a une différence parfois entre ce que disent les textes, voire ce qu'ils ne disent pas, mais qui est là, en potentialité dans les textes, et la réalité, malheureusement. J'ajoute que, contrairement à d'autres, là c'est un peu mon ridouche, c'est un peu mon innovation peut-être, et encore, Mopsik, auquel je n'oserais pas non plus me comparer, l'a montré notamment dans son dernier livre, paru à titre posthume, les deux visages de l'un, très récemment. En fait, il y a une continuité entre les cultes du féminin de l'Orient ancien et la Kabbale, en passant par la Bible et même la tradition rabbinique qu'on croit parfois dépourvue de cette dimension mythique, anthropomorphique et féminine. Je montre quelques passages, j'invite mes lecteurs à regarder ce que j'en dis dans mon livre, sur le féminin, la Malchut, la Shrina, même dans le Talmud. Et dans la Bible, alors bon, je peux pas, je crois que je n'ai pas le temps, mais il y a des passages qui sont très très clairs là-dessus. Allez, quand même un titre, le Cantique des Cantiques, on peut pas oublier que dans le Cantique des Cantiques, il y a cette dimension. Et puis, c'est le cas dans beaucoup d'autres passages de la Bible. Le féminin, le culte féminin, le dieu féminin, voire, comme disait Raphaël Pataille, qui malheureusement n'a jamais été traduit en français, mais je le cite beaucoup dans mon livre, la déesse hébraïque, c'est au centre. Alors maintenant, vous me posez une question qui est passionnante et terrible, en fait. Pourquoi on n'en parle pas plus? J'ai fait une conférence un jour, il y a un mois de ça, à Paris, et je parlais de ça devant des jeunes juifs et juives, et il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment, mais pourquoi est-ce que nos rabbins dans la synagogue ne nous parlent jamais de ça? Pourquoi? Ben en fait, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que j'ai pas la réponse. Pourquoi? Est-ce que c'est de l'ignorance? Dans certains cas, ça peut être... Franchement, disons-le, le cas. Hein. Voilà, la tradition kabbalistique et Tikkun et Zohar sont très très durs à l'égard d'un certain type de rabbin. Donc je crois qu'on peut, en se mettant sous le patronage de cette tradition, ne pas être beaucoup plus tendre. Et puis peut-être que parfois c'est une méfiance, c'est une peur, c'est une volonté de garder ça pour eux, je ne sais pas, Pourquoi? Je veux bien être gentil, hein, et prendre ça le Ravsrout et me dire que peut-être que c'est pas, ils pensent pas à mal. Alors c'est peut-être de l'ignorance dans ce cas, mais c'est assez grave, parce que on parle de gens qui ont une position de pouvoir dans le judaïsme, qui enseignent le judaïsme, qui prêchent, qui donnent une image de ce qu'est le judaïsme. Et en fait, effectivement, ils ne parlent pas de ça du tout. À l'époque qui est la nôtre, en fait, on a là un potentiel, une richesse extraordinaire. Et là, moi, j'ai deux filles, moi. En fait, quand ma fille est née, j'ai commencé à lui parler un peu des écritures, des fêtes, etc., etc., de Dieu. Elle m'a dit un jour, mais Dieu, c'est un homme ou une femme? Alors, je lui ai expliqué que c'était un peu plus compliqué que ça, que c'est pas un homme, pas une femme. Mais bien, enfin, je ne me serais pas vu cacher à ma fille qu'il y a une part féminine de Dieu. Et à ce moment-là, je lui ai cité, non pas le Zohar, je vous rassure, mais... La Genèse, chapitre 1. C'est-à-dire, il faut quand même faire exprès pour pas le voir. Il les créa, à l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle. Oui. Ça veut bien dire que Dieu est mâle et femelle. Oui. Genèse, chapitre 1. Et là, on a envie de dire, mais bon sang, pourquoi on nous cache ça?
Et que l'étincelle divine est recréée par l'association du masculin et du féminin. À l'image de Dieu, il les créa, masculin et féminin, mâle et femelle. J'ai beaucoup de questions à vous poser parce que votre ouvrage est très riche. Je sais que vous devez retourner aux États-Unis et prendre un avion.
Littéralement dans quelques heures.
Dans quelques heures, donc je vais limiter les questions, mais il y avait un point important que je voulais qu'on évoque. Le livre aussi parle d'actualité, de l'actualité avec cet antisémitisme virulent, ce boycott, ce mouvement BDS, et puis en même temps de la responsabilité du juif qui est liée à son élection. J'allais lire le passage, mais c'est un peu long, mais vous démontrez comment finalement les mots qui nous arrivent sont peut-être liés à cet imaginaire lié autour du peuple élu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Il y a une blague juive que j'ai pas citée dans mon livre, mais elle est tellement connue que nous sommes ton peuple élu, mais est-ce que parfois tu pourrais changer un petit peu? C'est-à-dire, être le peuple élu, c'est une bénédiction. C'est d'ailleurs être aussi bénédiction pour les autres. Venivre choubra, et ils seront bénis par toi, toutes les familles de la terre, dit la Genèse. Donc, bénédiction à plus d'un titre, mais c'est aussi un très lourd fardeau. Je ne crois absolument pas, et ça c'est le juif en moi qui dit ça, que la création d'un État, quel qu'il soit, c'est-à-dire d'une structure moderne en son essence, puisse changer quoi que ce soit à ça. Je ne crois pas que l'État d'Israël soit messianique, à moins de dire qu'il l'est, parce que toute chose a un potentiel messianique en elle, ça oui. Ça oui.
Même la France l'a été en son temps.
Absolument. Oui. Et par exemple, une chose très messianique dans le sionisme, c'est la renaissance de l'hébreu. Mais il y a eu des renaissances de l'hébreu. Au Moyen-Âge, il y a eu une renaissance de l'hébreu avec la poésie séfarade. C'est messianique aussi dans ce cas. Mmh. Je suis prêt à le dire. Mais sinon, moi, je suis persuadé, malheureusement, je suis très pessimiste là-dessus, que l'État d'Israël n'est pas plus messianique que l'a été à un moment le royaume hasmonéen. Et ça, c'est très mal fini. Et en fait, je pense qu'on va vers ça. Et donc c'est lié, en fait, ça me permet de répondre à votre question, tout en évoquant, comme ça, entre les lignes, ce que je dis du mythe de la terre et du mythe messianique. Je précise d'ailleurs, peut-être en conclusion, qu'un mythe, ça n'est pas un mensonge ou une légende. Un mythe, c'est une histoire vraie, puisqu'on la vit, mais qui peut être dangereuse dans certains cas.
Libérateur et dangereux en même
voilà.
temps.
Voilà. Ouais. Et donc, là, on est en plein dedans aujourd'hui. Et je pense que tout ça va très mal se finir et qu'en même temps, c'est la preuve paradoxale de notre élection. Quand je vois à quel point aujourd'hui c'est terrible ce qui se passe en Israël, à la fois parce qu'on y tue des juifs. Je le dis, je suis content de pouvoir le dire, d'avoir une minute de plus, je m'inscris en faux contre l'idée que l'État d'Israël serait une protection pour la sécurité des juifs. Je pense que c'est faux historiquement. Depuis 1945. Mais il y a eu des moments très longs dans l'histoire, contrairement à ce que les gens disent parfois, cette espèce d'histoire lacrymale, où les Juifs étaient très heureux, très longs, plus longs que le temps qui nous sépare de 45 et aujourd'hui. Par ailleurs, les Juifs en Israël sont en sécurité au prix de 3 ans d'armée, et c'est le seul pays depuis 1945 où ils ont été massacrés, il y a 1200 Juifs qui ont été tués là-bas. Et on sait que par ailleurs, dans le reste du monde, l'antisémitisme ne s'est jamais arrêté. Y compris à l'époque en URSS, dans les pays arabes, etc. Et aujourd'hui, bon. Donc voilà. Donc ça, c'est terrible. Et par ailleurs, eh bien, la puissance israélienne fait aussi que des juifs y versent parfois le sang, ça arrive, le sang non-juif. Et ils vont continuer, je pense. Et ça va être de pire en pire, et un jour, ils verseront le sang juif. Et là, je suis désolé de terminer sur une note triste. Mais peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une chance pour que je me trompe. Et s'il y a une chance pour que je me trompe, ça veut dire qu'il faut se battre et comprendre ce qu'est un mythe, c'est-à-dire se réapproprier cette beauté, cette grandeur, cette majesté du mythe et essayer de se trouver juste sur la pointe. Quand Abraham est prêt à sacrifier son fils, ça c'est le mythe juif par excellence, la Akeda. Là, on est à deux doigts de le sacrifier, si vous voulez. On est à deux doigts de lui trancher la gorge.
C'est la ligature. C'est...
Voilà. Mais vous savez, il y a un midrash célèbre qui dit qu'il a vraiment été sacrifié. Hein? Et c'est peut-être d'ailleurs entre les lignes vraiment de la Torah.
On va essayer de terminer.
Espérons qu'un ange nous attrapera à nouveau la main pour que ça n'ait pas lieu.
On va essayer de terminer sur une autre note avec une question classique, mais néanmoins difficile pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la Fréquence Juive de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
C'est un livre qui est une déclaration d'amour, si j'ose dire, au judaïsme, à un judaïsme plein de vitalité, plein de force, plein de beauté, contrairement à tout ce qu'on peut dire parfois en pensant bien faire. Et donc, c'est un geste de réappropriation de la part vitale, féminine, du judaïsme. Et ça n'exclut pas le mal, je viens d'en parler, mais dans une histoire d'amour, il y a aussi des choses parfois qui peuvent être nocives, je ne sais pas comment on dit, dures, Voilà. Mais justement, ce n'est pas un amour mièvre. C'est un amour plein de vitalité. Et c'est ça, c'est comme ça que je l'ai écrit. C'est en ce sens que je l'ai écrit. Et c'est l'engagement dont ce livre est le témoin. Et c'est aussi ça que j'ai voulu essayer de faire partir. C'est-à-dire que, et quand j'ai vu qu'il y avait une certaine audience pour ça dans la communauté juive, je me suis dit...
Sans doute pas seulement.
Mais là, je me suis dit, c'est formidable. En fait, il y a des gens à qui ça parle. Je l'ai constaté. Des gens à qui ça parle. Il y a des gens qui m'ont dit, on attendait cette déclaration de vitalité et d'amour. Notre génération attendait ça. On va sortir un petit peu, justement, d'une espèce d'académisme ou de rabbinisme un peu mièvre. Et on va se réapproprier ce que le judaïsme a de vraiment beau, vital, y compris rituel. Là-dessus, d'ailleurs, je m'oppose un petit peu à Buber, qui avait l'air de dire que les rites, c'était uniquement du côté d'un légalisme étroit. Non, pas du tout. Les rites, c'est beau. Et il faut se réapproprier tout ça.
Merci infiniment, David Aziza, d'avoir parlé avec nous de votre actualité. Donc, c'est l'ouvrage « Mythe juif » au pluriel, « Le retour du sacré ». Vous avez bien compris que c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, que je recommande vraiment à tout le monde, parce qu'on a dit une infime partie ce soir de tout ce qu'il y a à ouvrir comme tiroir. C'est un livre qui est très stimulant, qui nous interroge, qui aide à s'interroger aussi. Donc, procurez-le vous en urgence. Bonsoir et à bientôt.
Merci infiniment.